Donc je laisse la place à Pierre Farouille et Daniel Machrach qui vont nous emmener sur les traces des premiers lecteurs de la bibliothèque des années d'instruction du 3e arrondissement.
Bien, la question qu'on se pose et à laquelle on aimerait essayer de répondre, c'est mais finalement, qui étaient ces gens qui se sont inscrits dans cette bibliothèque lorsqu'elle a été créée en 1861 ? On aimerait bien les connaître. Alors c'est vrai qu'il y a eu par le passé plusieurs tentatives pour approcher ces premiers lecteurs et on a évidemment repris les études qui ont pu être réalisées sur ce point. Mais aujourd'hui, on souhaite à nouveau poser la question parce qu'on a la possibilité de disposer de bases de données qui nous permettent de mettre en relation des informations, ce qui n'était sans doute pas aussi aisé il y a quelques années, il y a notamment 30 ans. Et à nouveau traiter la question de savoir qui étaient ces premiers lecteurs dont on a perdu la trace parce que, évidemment, on va remonter à 153 ans en arrière. Pour essayer de retrouver leurs traces, on a, c'est vrai, une chance incroyable, mais qui est unique, c'est qu'on dispose d'un document. Ce fameux premier registre des lecteurs qui pose un certain nombre de questions qu'on va justement essayer de traiter dans un premier temps. Qu'est-ce que c'est que ce registre dans lequel ont été inscrits ces premiers lecteurs ? Quelles sont les difficultés qu'il pose ? Quelles sont ses particularités ? Et puis ensuite, dans un deuxième temps, à partir de ce registre, eh bien, on va essayer de procéder à une analyse des premiers lecteurs et essayer peut-être d'en identifier un ou deux. Ce registre des premiers lecteurs, vous le verrez dans la vitrine, qui est dans la pièce à côté. Alors c'est vrai qu'il ne paraît pas très extraordinaire. On en a fait une copie. Vous voyez que c'est donc évidemment un document qui paraît avoir été lu, travaillé, qui a un côté très artisanal. Sur l'une des premières pages, à la première ligne, on retrouve évidemment déjà le personnage dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est ce Jean-Baptiste Girard, qui apparaît en numéro 1. Ce qu'on va faire, c'est que Daniel, maintenant, va vous présenter son contenu et les questions qu'il pose.
Le registre est connu. Hein. Il a été utilisé avec d'autres sources dans plusieurs travaux. En 83, Pascal Marie a fait son mémoire de DEA d'histoire à l'Institut d'études politiques sur la bibliothèque. Son texte sera ensuite repris dans les lieux de mémoire publiés sous la direction de Pierre Nora. Et puis en 84, on avait donc organisé un colloque pour fêter le centenaire de l'installation de la BAI dans ses murs. De cette publication, deux articles plus précisément ont utilisé le registre, donc Yann Fraser et Odile Vaché. Alors en fait, on va faire une description assez matérielle du document. Il est relié en pleine toile noire. La reliure est récente, hein, ça date des années 90-91. Donc il fait ces mesures, 39 cm de haut, 26 cm de large. C'est un seul cahier de papier blanc, 72 pages, qui a été entièrement préparé à la main. Ce n'est pas un registre imprimé qui a été utilisé. D'un bout à l'autre du registre, tout est manuscrit. Il est en relativement bon état. Quand même, il commence à s'abîmer, en particulier dans le pli intérieur du document, ce qui fait que, comme vous le voyez, là, on a certains renseignements qui manquent. Ce document a connu plusieurs usages. Il est registre des lecteurs, de la page 2 à la page 39. Il est registre de prêt des pages 40 à 59. Et ensuite, les pages 60 à 72 n'ont jamais été utilisées. Donc l'utilisation comme registre de prêt est difficile à dater. Les seules indications sont les mois et les jours, mais pas de mention de date. Il démarre immédiatement. On tourne la dernière page du registre des lecteurs, c'est le registre de prêt. Il est très mal tenu. L'écriture est négligée, il est rayé au crayon de couleur. Enfin, il est très mal tenu. Voilà. Alors le registre lui-même, il s'organise en colonnes. Donc il y a une ligne d'en-tête qui a été tracée sur toutes les pages, de la première page à la dernière page. On suppose en une fois, parce que le tracé de l'encadrement est très homogène, donc on a l'impression que quelqu'un a préparé ça en une seule fois. On se retrouve donc avec une inscription qui se fait sur la double page, page 2, page 3, face à face, et on a un tableau de 7 colonnes, ce qui fait qu'on a 19 pages consacrées au registre des lecteurs. Et en fait, c'est cette partie qu'on va plus particulièrement étudier. Donc, l'inscription se fait sur une double page. Sur la page de gauche, on note un numéro matricule, un nom, un prénom, une profession, une demeure. Sur la page de droite, on note l'âge, la date de l'inscription et diverses observations. On voit que l'intitulé des colonnes d'en-tête a été rempli par plusieurs personnes. On a identifié deux mains différentes. On n'a pas toujours écrit exactement la même chose. Hein. Il y a des variations pour date de l'inscription, observation. Toutes les colonnes d'en-tête n'ont pas été remplies. Donc on a l'impression qu'on remplissait au fur et à mesure qu'on utilisait le registre les en-têtes. On va vous parler plus particulièrement de deux de ces colonnes sur les sept qui sont présentes. La colonne matricule, donc c'est celle qui est tout à fait à gauche. Et la colonne date d'inscription, c'est quasiment la dernière. On ne la voit pas très bien là-dessus. Droite. Voilà. Le numéro de matricule, le premier, c'est le numéro 1. Et ça va jusqu'au numéro 577. Il y a environ une trentaine de noms par double page. 11 numéros n'ont jamais été utilisés. Il y a des bandes de papier blanc qui ont été collées sur des lignes et ensuite on n'a pas réutilisé ces lignes. Donc c'est le cas pour cette ligne. Par contre, à d'autres pages, ils ont collé des bandes de papier blanc, ils ont ensuite réutilisé pour inscrire quelqu'un. Donc, ce qui fait qu'au total, on a 559 inscriptions effectives, on va dire. La colonne date d'inscription, elle n'est pas systématiquement notée. Sur nos 559 inscriptions, il y a 135 lignes qui sont sans date, c'est-à-dire environ un quart. La date est très rarement complète. En fait, il y a seulement 10 inscriptions qui ont le jour, le mois et l'année. Donc, on peut la déduire en général de la page où on se trouve. Pour ce type de données, il y a une très large utilisation des abréviations. Donc on a un petit D avec un petit rond du grade, on a ID pour idem, on a des guillemets, on a des traits verticaux ondulés. Il y a plusieurs mains dans ce registre. Dès la première page, on voit que les 9 premiers noms semblent avoir été écrits par une personne, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre. Donc notre conclusion, c'est que plusieurs personnes ont tenu le registre. Il y a énormément de corrections et d'annotations diverses. Donc dans la marge, on a des mentions rayées, décédées. Il y a des marques à l'intérieur des colonnes elles-mêmes, des croix, des traits, à l'encre, au crayon à papier, au crayon rouge, au crayon bleu. Donc on l'a dit, il y a des bandes de papier blanc qui ont été collées sur certaines lignes. On ne peut pas dater ces différentes interventions. Et souvent, on n'en comprend pas la signification. On a essayé de voir si le petit trait bleu, si on rassemblait tous les noms qui avaient un petit trait bleu, ça donnait quelque chose. Et en fait, non. On n'a pas la légende de ces diverses annotations. Les dates extrêmes d'inscription de notre registre, c'est le 1er juillet 61 et le 3 juillet 62. La première année d'existence de la bibliothèque. Donc, comment, à cette époque, on faisait pour s'inscrire? On sait certaines choses. Donc, les conditions à remplir pour s'inscrire et le coût sont connus. Donc, on va vous lire un petit extrait du règlement adopté dans l'Assemblée générale du 23 juin 1861.
Les livres de la bibliothèque sont prêtés à toute personne âgée d'au moins 15 ans. On a des personnes de 15 ans qui justifient de sa notoriété, déposent un droit d'inscription d'un franc au moins pour les hommes et de 50 centimes au moins pour les dames et s'engagent à acquitter la cotisation mensuelle.
Il y a à la fois un droit d'inscription qui vous fait devenir sociétaire et ensuite il y a une cotisation mensuelle pour l'emprunt des livres. On sait aussi quel jour, à quels horaires et à quel endroit on pouvait s'inscrire. Donc, la bibliothèque a d'abord été installée dans une école de l'école Turgot. Donc, l'entrée à ce moment-là se faisait par la rue du Verbois, au 17 rue du Verbois. Et ensuite, elle a rapidement déménagé dans les locaux de la mairie du 3e arrondissement. donc, qui était rue Vendôme, au 11 rue Vendôme. C'est l'actuelle rue Béranger. Et si vous connaissez la rue, c'est le siège du journal Libération. La mairie du 3e, elle a été installée à cet endroit-là de 1843 à 1867. Ensuite, elle est partie près du square du Temple et elle occupait l'hôtel de l'intendant Berthier de Sauvigny. Enfin, l'immeuble a complètement disparu. Et dans le compte-rendu de l'exercice 61-62, on va vous dire en fait à quelle heure et à quel jour vous auriez pu vous inscrire.
La bibliothèque est ouverte les dimanches et fêtes de 11h à 1h et les autres jours de la semaine de 7h à 10h du soir. L'inscription des nouveaux sociétaires se fait aux mêmes heures au siège de l'association Mairie du 3e arrondissement, rue Vendôme 11.
Ensuite, on vous propose un extrait d'un rapport sur la situation de la bibliothèque des Amis de l'instruction au 31 décembre 61, qui a été rédigé par Grandot.
Avec sur la gauche une illustration qui représente cette fameuse école Turgot. Il ne suffisait pas, messieurs, d'organiser la bibliothèque sur le papier, de préparer les éléments de la comptabilité, de choisir les livres. Il fallait chaque soir inscrire les nouveaux sociétaires, le délivrer des livrets, effectuer les rentrées, distribuer les livres. En un mot, consacrer un temps considérable à la partie matérielle de notre institution. Messieurs Girard, Bellamy, Briel, Chardard, Charpentier, Chrétien, Clouet, Collet, Dumoutier, Herbs, Fessard, Fontaine, Fribourg, Hurtin, Lamouroux, Landrin, Pascal, Paul-Marie, Picard, Rimet, Salé, Schneider se sont astreints à venir chaque soir à tour de rôle à l'école Turgot pour aider notre zélé bibliothécaire, M. Plomb, dans l'inscription des sociétaires, le catalogage et le prêt des livres, la rentrée des cotisations.
Ce texte décrit de façon assez vivante l'activité quotidienne de la bibliothèque à ce moment-là, mais il ne précise pas du tout la façon dont on enregistrait les inscriptions. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on utilisait des fiches ou est-ce qu'on utilisait un registre ? Donc si on utilisait un registre, ce qui est tout à fait vraisemblable, la question que nous on se pose, est-ce qu'il peut s'agir du document que nous sommes en train d'étudier, qui serait alors contemporain de la fondation de la bibliothèque ? Donc quel est le statut de ce registre des premiers lecteurs ? Pour essayer de répondre à cette question, quels éléments utiliser ? Donc on s'est dit que voir si le chiffre de 559 sociétaires qu'on obtient avec le registre correspondait au chiffre des inscriptions qu'on pouvait trouver dans d'autres sources. Donc on a par exemple regardé le rapport sur la bibliothèque des Amis de l'instruction du 3e arrondissement fait dans l'Assemblée générale du 10 août 1862. On a aussi regardé un texte de La Marche qui est un historique de la fondation de la bibliothèque et qui figure dans les exercices 75 à 77 de la bibliothèque des Amis de l'instruction. Donc là, une publication postérieure d'une quinzaine d'années. Je vais vous lire à mon tour un petit extrait. Donc d'abord, un petit extrait du rapport du 10 août. Donc, c'est le 17 mars 1861 que deux professeurs, réunis à quelques ouvriers leurs élèves, se concertèrent pour se procurer les livres nécessaires à toute bibliothèque utile et pour en faire profiter les autres au meilleur marché possible. C'est le 12 mai suivant qu'on se réunit pour s'entendre sur les principaux articles des statuts qui devaient régir l'association. Et enfin, le 23 juin, la première assemblée générale se tenait chez M. Marguerin, directeur de l'école Turgot, qui s'était empressé de mettre une de ses salles au service de la bibliothèque naissante. À ce moment, elle comptait déjà 200 adhérents, pleins d'ardeur pour le bien et de zèle pour la propagation de cette utile pensée. Enfin, c'est le 7 août 61 qu'une autorisation ministérielle était accordée à cette réunion d'hommes dévoués et actifs pour fonder dans le 3e arrondissement la bibliothèque des Amis de l'instruction. Et puis un petit peu plus tard, il dit « Pour un peu moins de 10 centimes par semaine, un sociétaire peut lire autant de volumes qu'il lui convient. » Pour moins de 100 francs, il peut lire pendant 20 ans et acquérir des trésors de morale et de savoir. Aussi, les adhésions nous sont-elles arrivées de toutes parts. Et un peu plus loin, au lieu de 400 souscripteurs que nous avions à la fin de l'an dernier, donc 1861, nous en comptons aujourd'hui, donc août 1862, 618. Les deux derniers mois seuls, nous en ont donné 75. Donc, en fait, août 1862, dans le rapport, on annonce 618 sociétaires, en sachant que les deux derniers mois, on en a donné 75, Et nous, avec notre registre au 3 juillet, on arrive à 559 inscriptions, des matricules qui vont jusqu'au numéro 577. Donc c'est relativement cohérent. De même, donc, dans l'historique de la marche, il parle de 600 adhérents peu de mois après son ouverture. Les données du registre coïncident pour le nombre des inscrits avec les chiffres qu'on trouve dans d'autres sources. Ensuite, on s'est dit qu'un élément à prendre en compte, c'était d'essayer de voir si la date de rédaction du document pouvait coïncider avec cette première année d'existence. Donc, après nous être penchés longtemps sur le registre, puisqu'on l'a transcrit entièrement, on est à peu près convaincu que l'écriture est bien une écriture du XIXe siècle, donc contemporaine de la fondation de la bibliothèque. Ensuite, la façon dont il a été rempli, on a vu que plusieurs mains en sont des slabs, donc à notre sens, ce n'est pas une copie qui a été faite a posteriori d'un autre document. On a à la bibliothèque des copies plus tardives de ce fameux registre des lecteurs, mais on voit bien que c'est une copie. Ce document-là, ça ne nous semble pas être une copie. Plusieurs personnes l'ont tenu. Alors, au fur et à mesure de son utilisation, au moins de l'inscription, ça c'est plus difficile à dire, mais en fait, au fur et à mesure de son utilisation, oui. C'est pas une liste qui a été recopiée après coup. On a quand même quelque chose qui est un peu gênant, c'est que en fait, les 250 premières inscriptions sont toutes datées du 1er juillet 1861. Donc là, on se dit que c'est quand même pas possible que le 1er juillet 1861, ils aient inscrit autant de monde. Dans l'article de Yann Fraser, dont on a parlé tout au début, il dit que, dès avant son ouverture, plus de 270 sociétaires, donc là aussi, c'est un chiffre, c'est pas tout à fait celui que nous on voit, mais c'est quand même un peu dans le même ordre de grandeur. Donc, dès avant son ouverture, plus de 270 sociétaires, ouvriers pour la plupart, s'étaient inscrits sur les listes de lecteurs. Voilà. Et donc, Yann ajoutait dans son... Il avait fait une note à propos de cette observation, et il disait que les listes numérotées des sociétaires dans les archives de la BAI sont les seuls documents qui nous restent de l'époque 1860-1890. Et ben donc, en fait, on ne peut pas vous dire si ce document-là, ce registre, est vraiment le registre qui était là à l'école Turgot quand tout le monde s'activait pour inscrire les lecteurs. On ne peut pas, en fait, affirmer que c'est bien ce document qui a servi à inscrire les premiers lecteurs, même si on est tenté de le penser. Et en fait, donc en conclusion, on dira simplement que c'est un document qui a été abondamment corrigé et annoté, qu'à un moment donné, c'était un document vivant. On peut aussi dire qu'à un moment donné, dans la bibliothèque, on avait perdu la notion de l'importance du document. C'est-à-dire que tout de suite après le registre des lecteurs, brutalement, on l'a utilisé pour un registre de prêts qui n'était pas très bien tenu. Donc maintenant, le registre des premiers lecteurs à la bibliothèque, il est sacralisé, quoi. Enfin, on ne fait pas n'importe quoi. Bon. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ça, les gens, ils avaient besoin de papier et donc ce registre n'était pas rempli jusqu'à la fin. Donc ils l'ont pris et puis ils l'ont utilisé pour ce qu'ils avaient à faire.
On a tout simplement retravaillé l'ensemble des informations qu'on a mis dans une base de données et donc on a simplement passé ces informations au tamis de quatre critères. Donc âge, le genre, ensuite les professions et ensuite la géographie. Donc on voit que tout le monde n'a pas donné son âge, mais enfin sur ceux qui l'ont donné, ce qui est assez marquant parce que je pensais qu'il n'en serait pas ainsi, c'est finalement la jeunesse. Des gens qui s'inscrivent dans cette bibliothèque. Donc on peut s'y inscrire à partir de 15 ans, effectivement, on a une personne qui s'inscrit à partir de 15 ans. L'essentiel des personnes ont moins de 30 ans, même si il y a une personne qui est beaucoup plus âgée, la plus ancienne, ayant 82 ans. Ça c'est la première analyse possible. Ensuite une deuxième analyse qui est une analyse par genre. Donc là, tout à l'heure, vous l'avez remarqué et incontestablement compris, les femmes pouvaient, dès l'origine, s'inscrire dans la bibliothèque et payer une cotisation qui était moitié moindre que celle des hommes. Alors simplement, voyez que les femmes restaient très marginales en nombre par rapport à l'ensemble des inscrits, puisque seules, en fait, 41 femes sont inscrites dans cette bibliothèque, soit moins de 10% de la population qui s'est inscrite en gros la première année, au sens large. Beaucoup de femmes n'ont pas de profession, puis ensuite, alors on a simplement classé les professions, que des institutrices s'inscrivent dans cette bibliothèque me paraît assez compréhensible, mais ensuite on a des métiers plus originaux peut-être, comme des coloristes, des rentières, ou même une photographe. Sur les professions, donc évidemment, comme ça a été indiqué tout à l'heure, nous n'avons pas cette information pour l'ensemble des inscrits, mais nous l'avons de temps en temps. Il y a la plupart du temps des professions qui sont assez génériques, qui peuvent laisser un peu penseur, et on ne sait pas exactement ce que recouvre cette notion, la notion d'employé, de commis, d'étudiant, parce que étudiant pour quelqu'un qui a 15 ans, est-ce que c'est exact? Ça paraît un peu surprenant. Ensuite, les grandes professions, et finalement, on n'est pas tellement étonné de retrouver ce type de profession dans la tête de classement, ce sont des lithographes, parce que Jean-Baptiste Girard exerçait ce métier, des bijoutiers, des dessinateurs, des graveurs, des mécaniciens et des instituteurs. Et puis, il y a également des professions beaucoup plus exotiques, enfin en tout cas pour moi, peut-être pas pour vous, des batteurs d'or, des coupeurs en chaussures, des fabricants de boutons, un plumassier ou un ouvrier en parapluie ou en lanterne. Dernier classement, c'est l'analyse géographique. Donc on a essayé de placer l'ensemble de ces premiers lecteurs sur un plan de Paris qui date évidemment de l'époque parce que c'est 62, hein. C'est après la création des arrondissements de Paris, donc c'est une chance. Et donc là, qu'est-ce qui ressort en fait de ce plan, ce qui n'est pas finalement très étonnant. L'essentiel des lecteurs sont issus des arrondissements proches, le 3e et les arrondissements voisins, mais... Et c'est ce qui peut quand même paraître assez surprenant, c'est que finalement, il y a aussi des lecteurs qui viennent de plus loin. On a des lecteurs qui viennent du 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, en assez grand nombre. Ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de faire une analyse plus détaillée sur les lecteurs dans le 3e arrondissement. On aperçoit quand même, au travers de ce document, qu'il y a des nids de lecteurs, hein, puisqu'il y a des rues dans lesquelles on a plusieurs lecteurs, la rue de Périgueux, les Gravilliers, Notre-Dame de Nazareth et d'autres. Donc ce qui nous paraît assez intéressant, c'est ce qu'on a essayé de faire ensuite, c'est d'aller voir pour la rue des Gravilliers, qui sont ces premiers lecteurs, quel est leur métier. Quand se sont-ils inscrits? Est-ce qu'ils se sont tous inscrits en même temps ou successivement? Et donc, il apparaît très clairement qu'ils se sont inscrits progressivement. On a d'abord eu 4 inscrits le 1er juillet 1861, c'est-à-dire le jour où officiellement la bibliothèque, en quelque sorte, ouvre ses portes avec ces 4 personnes. Retenons, si vous le voulez bien, on en reparlera dans une demi-seconde, Victor Sonnet, Ferblantier. Et puis ensuite, donc, au fur et à mesure que les semaines passent, d'autres personnes issues de la même rue s'inscrivent, avec un garçon de café, Madame Bellamy, concierge, et puis ensuite Charles Lacroix, dessinateur, un papetier et un bijoutier, un graveur. Au-delà de ces statistiques, on peut revenir sur ce Victor Sonnet, parce que tu as trouvé, je crois, des choses intéressantes.
Enfin... Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les images précédentes, quand on a placé nos lecteurs, au numéro 7, on a placé le lecteur qui s'est inscrit sous le numéro 168. On l'a lu Sonnet, mais il s'appelle Victor, il est fabricant en ferblanterie et il habite au 7 rue des Gravilliers. Premier abord, c'est vrai qu'on a lu un O, mais... Est-ce que la personne aurait pu écrire un peu rapidement? Est-ce que ça pourrait, ça nous arrangerait tellement, est-ce que ça pourrait être un E? Et puis ça serait donc la publicité de notre 168e inscrit. La publicité, elle est sur le côté, donc la maison qui avance, c'est bien le numéro 7. Hein. Si vous allez rue des Gravilliers maintenant, vous avez toujours l'immeuble avec le petit décrochement. Quand on est en face de lui, c'est un hôtel ancien en pierre de taille, qui n'est pas luxueux, mais qui est assez joli. Et donc, dans l'annuaire d'Ido Bottin du commerce, l'année 1861, il y a des pages par profession. Et donc, quand vous cherchez les ferblantiers, Assenay, vous avez une ancienne maison Le Maire Assenay, fabrication spéciale de cafetière à filtre, à esprit de vin, à servir et de nouveaux genres, système breveté SGDG et l'adresse Gravilliers 7.